plusieurs des prophéties que j'ai faites il y a 30 ans,
Aldous Huxley,
se sont déjà réalisées. J'ai projeté ce monde nouveau à une distance de 6 siècles, mais je me trouve assez terrifié de me rendre compte que beaucoup de ces prophéties se sont déjà réalisées dans une seule génération.
Ça peut pas faire de mal.
Le meilleur des mondes était nettement très pessimiste.
Naturellement, rien n'est inévitable dans ce monde. Nous avons une liberté de choix et si nous voulons employer notre intelligence et notre bonne volonté, il n'y a pas de doute que nous pouvons faire des choses extraordinaires. Mais la question est, est-ce que nous allons vouloir employer notre intelligence et notre bonne volonté?
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Liste non exhaustive. Plus de plongeons dans des piscines d'eau chlorée éclairées en vert par en dessous. Plus de matchs de baseball disputés à la lumière des projecteurs. Plus de luminaires extérieurs sur les vérandas attirant des papillons de nuit les soirs d'été. Plus de trains filant à toute allure sous la surface des métropoles. Plus de villes. Plus de films, sauf rarement, sauf avec un générateur noyant la moitié des dialogues, et encore seulement les premiers temps, jusqu'à ce que le fuel pour les générateurs s'épuise. Plus d'écrans qui brillent dans la semi-obscurité lorsque des spectateurs lèvent leur portable au-dessus de la foule pour photographier des groupes en concert. Plus de scènes éclairées par des halogènes couleur bonbon, plus d'électro, de punk, de guitares électriques. Plus de transport aérien, plus de villes entrevues depuis le ciel à travers le hublot, scintillement de lumière. Il y avait bien encore des avions, ça et là, cloués au sol sur des pistes d'envol et dans des hangars. La neige s'amoncelait sur leurs ailes. Les mois d'hiver, ils faisaient d'excellents garde-manger. En été, des adolescents s'y faufilaient pour faire l'amour. Plus de pays, les frontières n'étant pas gardées. Plus de pompiers, plus de police. Plus d'entretien des routes, ni de collecte des ordures. Plus de navettes décollant de Cap Canaveral, de Baïkonour, de Vandenberg, traçant dans l'atmosphère des sillons incandescents. Plus d'Internet, plus de réseaux sociaux, plus moyen de faire défiler sur l'écran des litanies de rêves, d'espoirs fiévreux, de photos de déjeuner, des projets de rendez-vous, des supplications, des plaintes, des désirs, des photos de bébés. Plus moyen de commenter les récits de la vie d'autrui et de se sentir ainsi un peu moins seul chez soi. Plus d'avatar. Ce monde en crise, privé d'électricité, est un monde post-apocalyptique né de l'imagination d'une jeune romancière canadienne, Emily St. John Mandel. À 37 ans, l'auteur signe un 4e roman passionnant, édité chez Rivage, qui s'intitule Station Eleven. C'est l'une des découvertes de cette rentrée littéraire, un roman de science-fiction qui décrit une Amérique du Nord dévastée par une épidémie de grippe. Ce soir, je vous invite à un petit tour d'horizon du monde anglo-saxon. Depuis l'annonce du Brexit anglais en juillet dernier jusqu'aux prochaines élections américaines, comment la littérature anglophone se fait-elle l'écho des inquiétudes politiques ? Nous irons fureter du côté des utopies et des contre-utopies qui ont marqué l'histoire de la pensée anglo-saxonne. Des peurs catastrophistes aux espoirs idéalistes, découvrons plusieurs récits de science-fiction qui, à la croisée de la littérature et de la philosophie, ont le mérite d'introduire un peu d'ironie dans un monde incertain. Parmi les voix que nous entendrons, celles des auteurs contemporains et celles de grands penseurs classiques. Tendez bien l'oreille, car un certain Shakespeare s'impose de part et d'autre de l'Atlantique. Restons en compagnie de cette jeune romancière canadienne, Emily St. John Mandel. L'univers que brosse Station Eleven est celui plausible d'un futur proche où une grande partie de l'humanité a disparu suite à une terrible catastrophe sanitaire.
Ton papa est en isolement. Tu vas devant la vitre et tu peux prendre le téléphone et parler avec lui.
Papa ?
Chérie.
T'es malade ?
Non. Ce sont de simples précautions, tout ça. Histoire d'être sûr.
Mais ce truc, tu peux encore l'avoir ? T'étais avec eux ?
Non, je peux plus être malade. Ils disent que ça se manifeste très très vite. Et puis là, j'ai rien du tout, je vais très bien.
Mais...
J'ai rien du tout, on ne craint rien.
L'accès aux sources d'énergie est coupé, toute activité humaine est réduite à néant. Dans cet avenir fictif, donc, retrouvons l'héroïne, Kristen, qui est comédienne. Avec sa troupe, elle traverse la région des Grands Lacs en caravane, jouant Shakespeare devant de rares survivants. Étrange vision d'un monde en décomposition, où seul le théâtre est capable de recréer un lien, si ténu soit-il, entre les hommes. 20 ans après la fin des transports aériens, les caravanes de la symphonie itinérante avançaient lentement sous un ciel chauffé à blanc. C'était la fin juillet et le thermomètre vieux de 25 ans accroché à l'arrière du véhicule de tête indiquait 106 Fahrenheit, 41 Celsius. Ils se trouvaient à proximité du lac Michigan mais ne pouvaient pas le voir d'où ils étaient. Des arbres se resserraient sur les côtés de la route, d'autres émergeaient de fissures dans la chaussée. La canicule sévissait sans répit depuis une semaine. La plupart des membres de la troupe allaient à pied pour réduire la charge des chevaux qu'il fallait laisser se reposer à l'ombre un peu trop fréquemment à leur goût. La symphonie ne connaissait pas bien ce territoire et voulait le quitter au plus vite, mais la rapidité était impossible par cette chaleur. Ils cheminaient lentement, armes à la main. Les acteurs récitaient leurs répliques, les musiciens essayaient d'ignorer les acteurs, des éclaireurs guettaient le moindre danger sur la route, aussi bien devant que derrière eux. « Ce n'est pas un mauvais exercice », avait déclaré un peu plus tôt le metteur en scène Gil, 72 ans, qui voyageait désormais à l'arrière de la deuxième caravane. « Si vous arrivez à mémoriser votre texte en territoire hostile, vous serez impeccable sur scène. »« Lire entre », dit Kirsten. 20 ans auparavant, dans une vie dont elle n'avait pratiquement aucun souvenir, elle avait tenu un petit rôle muet dans une éphémère production du Roi Lear à Toronto. Aujourd'hui, elle marchait dans ses sandales aux semelles découpées dans un pneu de voiture et portait 3 couteaux à la ceinture. « Mais qui vient ici ?» déclama l'homme qui apprenait le rôle d'Edgar. Il s'appelait Auguste et ne faisait l'acteur que depuis peu. « Jamais cerveau sain n'affublera en la suite. »« Ainsi son maître, » souffla Kirsten. « Merci. »« Jamais cerveau sain n'affublera ainsi son maître. »« Non, ils ne peuvent me toucher pour avoir battu monnaie, » lança Dieter par-dessus son épaule. Il apprenait le rôle de Lear, bien qu'il ne fût pas assez vieux. Il marchait un peu devant les autres acteurs, murmurant des mots doux à son cheval préféré. Celui-ci avait perdu la moitié de sa queue, le premier violoncelle ayant remplacé les cordes de son archet la semaine précédente. « Oh, déchirant spectacle !» dit Auguste. « Tu sais ce que je trouve déchirant, » maugréa la troisième trompette ?« C'est d'écouter le roi Lear 3 fois de suite en pleine canicule. »« Nous serons à Saint-Déborah dans 2 heures, » coupa Gil. « Il n'y a absolument aucune raison de s'inquiéter. » Les caravanes étaient d'anciens pick-up aux roues en bois et en acier, aujourd'hui tirés par des attelages de chevaux. On avait retiré toutes les pièces rendues inutiles par la disparition de l'essence. Moteur, système d'alimentation, toutes les autres composantes qu'aucun humain de moins de 20 ans n'avait jamais vu fonctionner. Et on avait installé un banc sur le toit de chaque cabine pour les conducteurs. Les structures principales des caravanes, bâches en toile goudronnées, arrimées sur les armatures, avaient été érigées sur les plateaux des pick-up. Les bâches des 3 chariots étaient peintes en gris acier avec sur les côtés, en lettres blanches, l'inscription « La symphonie itinérante ». 20 ans ont passé. Il y eut la grippe qui explosa à la surface de la Terre, telle une bombe à neutrons, et le stupéfiant cataclysme qui en résulta. Les premières années indescriptibles où les gens partirent sur les routes pour finalement se rendre compte qu'il n'existait aucun endroit accessible à pied où la vie continuait telle qu'ils l'avaient connue auparavant. Ils s'installèrent alors où ils le pouvaient, dans des relais routiers, d'anciens restaurants, des motels délabrés, en restant groupés par mesure de sécurité. La symphonie voyageait entre les colonies du Nouveau Monde, comme elle le faisait depuis la 5e année après l'Apocalypse, où la chef d'orchestre, accompagnée de quelques amis de leur fanfare militaire, avait quitté la base aérienne sur laquelle ils vivaient pour se mettre en marche dans le paysage inconnu. À ce moment-là, la plupart des gens s'étaient déjà établis quelque part. En effet, dès l'an 3, l'essence était devenue inutilisable et on ne pouvait pas continuer de marcher indéfiniment. Après 6 mois d'errance d'une ville à l'autre, le mot « ville » étant utilisé au sens très large, certaines d'entre elles se composaient de 4 ou 5 familles vivant ensemble dans une ancienne auberge, la fanfare de la chef d'orchestre était tombée sur la compagnie théâtrale de Gil, des acteurs shakespeariens qui avaient fui ensemble Chicago avant de travailler pendant quelques années dans une ferme et qui cheminaient sur la route depuis 3 mois. Les deux formations avaient décidé de fusionner. 20 ans après le cataclysme, ils voyageaient toujours, longeant les rives des lacs Huron et Michigan jusqu'à Traverse City, à l'ouest, puis vers le nord-est, franchissant le 49e parallèle en direction de Kincardine. Ils ne faisaient que de rares rencontres, principalement des colporteurs qui transportaient leur bric-à-brac d'une ville à l'autre. La symphonie itinérante jouait de la musique, classique, jazz, arrangements pour orchestre de chansons pop d'avant la débâcle, et du Shakespeare. Les premières années, il leur était arrivé de jouer davantage de pièces contemporaines. Mais le plus étonnant, ce qu'aucun d'entre eux n'aurait imaginé, c'est que le public semblait préférer Shakespeare aux autres œuvres du répertoire. « Les gens veulent ce qu'il y avait de meilleur au monde », disait Dieter, qui avait lui-même du mal à vivre dans le présent. Il avait fait partie d'un groupe punk à l'université, et le son d'une guitare électrique lui manquait cruellement. Traversons l'Atlantique et découvrons un autre récit de science-fiction. C'est l'autre événement de la rentrée littéraire, la réédition d'un grand best-seller devenu un classique chez nos amis britanniques. Il s'agit de Watership Down, une fable politique parue en 1972, premier roman et premier grand succès de l'écrivain Richard Adams. Né en 1920, l'auteur est un amoureux inconditionnel de sa campagne natale, du côté du Hampshire. C'est en se promenant sur la route de Stratford-upon-Avon, la ville natale de Shakespeare, qu'il conçoit cette drôle d'épopée animalière qui raconte l'exil d'un groupe de lapins, chassés de leur garenne par la main de l'homme. Nous voici au début de l'aventure. Tout semble paisible dans la nature lorsque surgit la menace. Le crépuscule n'allait pas tarder et le soleil couchant de ce mois de mai empourprait les nuages. La pente sèche était constellée de lapins. Les uns grignotaient les rares brins d'herbe autour de leur terrier, tandis que d'autres osaient s'éloigner un peu, en quête de pissenlits ou d'une prime verte oubliée. Assis bien droit sur une fourmilière, un guetteur surveillait les alentours, les oreilles dressées et le nez en alerte. Il n'y avait rien à craindre. Un merle sifflait tranquillement à la lisière de la forêt. De l'autre côté, aux abords du ruisselet, tout était dégagé et silencieux. La paix régnait sur la garenne. D'un bond maladroit, Fivier se rapprocha de son compagnon. « Allons un peu plus loin, Hazel, lui dit-il. Il y a quelque chose d'étrange ce soir, même si je ne sais pas vraiment quoi. Est-ce qu'on pourrait descendre jusqu'au ruisseau ?»« D'accord, et essaie de me dénicher une prime verte. Si toi tu n'en trouves pas, personne ne le pourra. » Il ouvrit le chemin, son ombre s'allongeant sur l'herbe derrière lui. Arrivé près du filet d'eau, ils se mirent à grignoter autour des ornières creusées par les roues des charrettes. Près de l'eau, l'herbe était grasse et un peu trop humide. Ils gravirent donc l'autre versant à la recherche d'un terrain plus sec. Une partie du pré était déjà dans l'ombre et au loin, face à eux, le jour déclinait. Hazel, qui voulait trouver un coin au chaud et encore ensoleillé, continua jusqu'au bord du chemin. Arrivé à proximité du portail, le regard fixe, il se figea. Mais qu'est-ce que c'est ? Non loin, le sol avait été remué depuis peu. Des monticules de terre émergeaient de l'herbe. De gros poteaux qui empestaient la peinture et le goudron s'élevaient jusqu'à la cime des houes et soutenaient une planche qui projetait au sol une ombre immense. En quelques bonds, les lapins s'approchèrent de l'écriteau, puis allèrent se blottir dans un buisson d'ortie. Un vieux mégot abandonné leur fit froncer les narines. Tout à coup, Fiveear frissonna et se recroquevilla. « Hazel, c'est d'ici que ça vient. Je sais maintenant. Une chose terrible, une catastrophe approche. » Puis il se mit à pousser des gémissements effrayés. « Quelle catastrophe ? Qu'est-ce que tu racontes ? Tout à l'heure, tu disais que ce n'était pas un danger. » « Je ne sais pas ce que c'est, » répondit Fiveear, l'air triste. « Il n'y a rien de dangereux à cet instant précis, mais ça vient, ça vient. Oh, regarde le pré, il est plein de sang. » « Ne dis pas n'importe quoi, c'est seulement le soleil du soir. S'il te plaît, ne parle pas comme ça, tu me fais peur. » Fiveear se mit à trembler et à sangloter. Hazel essaya de le rassurer et chercha ce qui avait bien pu le mettre dans un tel état. S'il était vraiment terrorisé, pourquoi ne courait-il pas se mettre à l'abri comme tout lapin le ferait ? Mais Fiveear ne lui donnait aucune explication. Son angoisse ne faisait que grandir. Hazel finit par lui dire « Tu ne peux pas rester là à pleurer. En plus, la nuit tombe. On ferait mieux de retourner au terrier. » « Au terrier, gémit Fiveear, mais la chose arrive. On n'y échappera pas, je t'assure, l'herbe est pleine de sang. »« Ça suffit, » le coupa fermement son frère. « Cette fois, c'est moi qui décide. Quel que soit le problème, on doit rentrer maintenant. » Il descendit la pente et traversa le maigre ruisselet à l'endroit où il n'était que gadou. Là, il dut attendre, baigné comme dans la campagne environnante dans les derniers rayons de cette paisible soirée de printemps. Car Fiveear, désemparé, était presque tétanisé. Hazel parvint néanmoins à le convaincre de franchir le fossé jusqu'à leur terrier, mais une fois arrivé, Fiveear refusa de descendre sous terre, si bien que Hazel dut se résoudre à l'y expédier de force. Le soleil disparut derrière la colline. Le vent fraîchit, apportant dans son souffle quelques gouttes de pluie, et en moins d'une heure, il fit nuit noire. Les couleurs du ciel s'étaient évanouies et même si là-haut, près de la barrière, le grand écriteau grinçait doucement dans la brise, comme pour rappeler que loin d'avoir disparu dans les ténèbres, il restait solidement planté là, il n'y avait personne pour lire ces lettres dures dont les contours acérés, tels des couteaux noirs, annonçaient sur un fond blanc. Ce domaine idéalement situé, 3 hectares d'excellent terrain à bâtir, va être loti par Such & Martin, société immobilière de Newbury, qui y construira des résidences modernes de grand standing.
Tu es Noisette, n'est-ce pas ?
Oui, c'est ça.
Et que viens-tu faire ici ?
Nous voulons voir le chef lapin Bigwig.
Nous ? Tu veux dire qu'il veut le voir, lui aussi ?
Oui, en effet.
Et il le faut.
Et pourrais-je savoir pourquoi ?
Je t'en prie, Bigwig. Est-ce que je t'ai déjà demandé de voir le chef lapin ?
Bon. Attendez là.
Qui est ton ami ?
C'est mon frère, monsieur. Rêveur.
Dites-moi en quoi je puis vous aider.
Eh bien, il dit qu'une grande menace va s'abattre sur notre garenne.
Une menace, dis-tu ? De quelle sorte de menace s'agit-il au juste ?
Je l'ignore, mais c'est une menace vraiment terrible, monsieur.
Admettons. Et que devrions-nous faire ?
Tous nous enfuir, quitter ce lieu sur le champ.
Tout de suite ? En mai ? En pleine saison des amours ? Et où irions-nous ?
Restons dans la garenne de Watership Down, promesse d'un nouveau monde. Quelques chapitres plus loin, Hazel et Fiveear ont provoqué la panique. Avec un groupe de mâles, ils abandonnent leur garenne menacée et partent à la conquête d'un nouveau territoire. Nous voici à la moitié du roman. Hazel et Fiveear sont accompagnés par un solide lapin du nom de Bigwig. Ce soir-là, c'est au tour de Bigwig, Rubus, Dent de Lion et Léon Dent de partir à l'assaut d'une ferme. Nos lapins de garenne ont décidé de libérer des lapins domestiques et de les inviter à rejoindre leur nouvelle terre. Mais, incrédules, ceux qui recouvrent la liberté n'ont pas encore fait l'apprentissage de la conscience politique. En avant, dit Bigwig. Et vite, tant que le chien dort encore. La remise, le clapier, c'est par où ? Léon Dent trouva la petite cour. Hazel craignait que la porte de la remise ne soit fermée. Par chance, elle était à nouveau entrebâillée et ils entrèrent l'un après l'autre. Dans le noir, il ne pouvait distinguer le clapier, mais il percevait nettement l'odeur des lapins. « Rubus, » dit Big Wig sans attendre, « viens avec moi ouvrir la cage. Vous autres, faites le guet. Si un chat arrive, chargez-vous de lui. »« Parfait, » dit Léandan, « tu peux compter sur nous. » Big Wig et Rubus trouvèrent la botte de paille et grimpèrent sur les planches dont avait parlé Hazel. Buis Suisse, le lapin domestique, les entendit et demanda « Qui va là ?»« Hazel, tu es de retour ?»«
C'est lui qui nous envoie, » répondit Rubus. « On est venu vous délivrer. Vous êtes décidé à fuir ?»
Il y eut un silence. Puis un bruit de foin qu'on remue, et ce fut une lapine, Clover, qui répondit « Oui, ouvre-nous. » Rubus fit le tour du clapier en se laissant guider par son odorat. Il arriva devant la porte grillagée, s'assit, promena son nez sur les montants et trouva le loquet.
« Je crois qu'on n'arrive à rien de ce côté, » dit-il. « Je me demande s'il y a une autre issue. »
À cet instant, le hasard voulut que Buissus, se dressant de toute sa hauteur, appuie les pattes avant sur la partie supérieure du grillage. Sous son poids, la porte ploya légèrement vers l'extérieur. La charnière commença à céder. « Par cric Dieu des lapins, ça va marcher !» s'exclama Rubus. « Ça prendra juste un peu plus de temps. » La charnière était solide et il fallut de nombreux coups de dents pour l'entamer. Dent de Lion commençait à perdre son sang-froid et donna deux fois l'alerte sans raison. Big Wig comprit que les sentinelles avaient les nerfs à vif. Il fallait hâter le mouvement. Soudain, Rubus s'écria.
« Pousse dans l'autre sens, Big Wig. Pousse de ton côté. Allez, pousse ! Dis au lapin de se coucher !»
Big Wig se dressa sur ses pattes et fit pression sur le haut de la porte. Cette fois, le châssis pivota pour de bon, sans résister. La charnière de cuir se tordit et Big Wig faillit perdre l'équilibre.
« Attention, » dit Rubus. « Si la charnière cède brusquement, tu vas basculer. Arrache-la avec les dents. »
Deux minutes plus tard, la porte n'était plus retenue que par le loquet. Clover se glissa sous le châssis et sortit, suivi de Buissus. La porte du clapier qui leur avait donné tant de fil à retordre n'était plus à présent qu'un vulgaire grillage fixé sur des morceaux de bois. Et les lapins, assis sur les planches, la reniflaient et l'étudiaient en silence. Quelques instants plus tard, les deux autres occupants, le mâle Hollander et la femelle Foen, s'en extirpèrent timidement et regardèrent autour d'eux. « Où est Hazel ?» demanda Hollander.
« Pas loin d'ici, » dit Rubus. « Il nous attend sur le sentier. »«
C'est quoi le sentier ?»«
Le sentier ?» dit Rubus, surpris.
« Mais voyons... » Il réalisa soudain que ces lapins ne connaissaient ni sentier ni cours de ferme. Ils ne savaient absolument rien de ce qui les entourait. Rubus fut alors plongé dans un abîme de réflexion, d'où Big Wig le tira brusquement.
« Il ne faut pas traîner ici, » dit-il. « Suivez-moi. »«
Où ça ?» demanda Buissus. « Dehors, bien entendu, » répondit Big Wig impatient. Buissus se regarda autour de lui. « Je ne sais pas. »«
Moi, je sais, » dit Big Wig. « Suis-nous. Ne t'occupe de rien. »
Les lapins domestiques se dévisagèrent d'un air ahuri. On voyait qu'ils avaient peur de ce grand mâle avec sa drôle de tignasse sur la tête et qui sentait si fort le sang frais. Ils étaient désorientés, perplexes, ne comprenaient ni ce qu'ils devaient faire, ni ce qu'on attendait d'eux. Ils se souvenaient de Hazel, puis l'ouverture de la cage les avait tenus en haleine, et ils en étaient sortis par curiosité. En dehors de ça, ils n'avaient aucun projet, ni aucune intention d'informer. Ils semblaient aussi inconscients que le lapro qui accompagne sa mère. Seuls, ils étaient aussi incapables de gravir la colline que de voler jusqu'à la lune.
Cet entretien avec le gouverneur Henri Santini vous est offert par Soleil Rouge et Soleil Jaune, végétaux à grande puissance énergétique, et le tout nouveau et délicieux Soleil Vert, l'aliment miracle au concentré de plancton recueilli dans les mers et océans du monde. En raison même de son immense popularité, Soleil Vert est devenu une denrée rare. N'oubliez pas que c'est mardi le jour de Soleil Vert. No colors or shapes, no sound in my head. I forget who I am when I'm with you. There's no I'm not supposed to feel.
heart.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal.
Remontons le cours du temps. Nous voici 4 siècles en arrière, aux origines philosophiques de l'utopie. Nous sommes toujours en Angleterre en 1516. Un autre récit de science-fiction connaît un immense succès, l'Utopie de Thomas More, dont on commémore cette année le 500e anniversaire de sa publication. La seconde partie de l'ouvrage décrit l'île d'Utopia, où règne l'égalité parmi les hommes, ainsi qu'une économie fondée sur le troc, sans recours à l'argent. La première partie, moins connue, est un dialogue fictif entre un voyageur, Raphaël Hitleday, découvreur d'Utopia, et un cardinal réactionnaire qui se plaint de l'injustice sur Terre. Cette première partie est aussi l'occasion pour Thomas More de se livrer à une joyeuse satire de l'Angleterre du XVIe siècle. Dans le passage suivant, les deux protagonistes se moquent des deux pays rivaux, l'Angleterre et la France. Si l'une est une nation de valets, l'autre est une nation de fonctionnaires. Raphaël Hitleday. La principale cause de la misère publique, c'est le nombre excessif des nobles, frelons oisifs qui se nourrissent de la sueur et du travail d'autrui et qui font cultiver leurs terres en rasant leurs fermiers jusqu'au vif pour augmenter leurs revenus. Ils ne connaissent pas d'autre économie. S'agit-il au contraire d'acheter un plaisir, ils sont prodigues jusqu'à la folie et la mendicité. Ce qui n'est pas moins funeste, c'est qu'ils traînent à leur suite des troupeaux de valets fainéants, sans état et incapables de gagner leur vie. Ces valets tombent-ils malades ou bien leur maître vient-il à mourir? On les met à la porte. Voilà des gens exposés à mourir de faim s'ils n'ont le cœur de voler. Ont-ils en effet d'autres ressources? Tout en cherchant des places, ils usent leur santé et leurs habits. Et quand ils deviennent pâles de maladie et couverts de haillons, les nobles en ont horreur et dédaignent leur service. Les paysans même ne veulent pas les employer. Ils savent qu'un homme élevé mollement dans l'oisiveté et les délices, habitué à porter le sabre et le bouclier, à regarder fièrement le voisinage et à mépriser tout le monde, ils savent qu'un tel homme est peu propre à manier la bêche et le hoyo, à travailler fidèlement pour un mince salaire et une faible nourriture au service d'un pauvre laboureur. Là-dessus, mon antagoniste répondit, le cardinal, « C'est précisément cette classe d'hommes que l'État doit entretenir et multiplier avec le plus de soin. Il y a chez eux plus de courage et d'élévation dans l'âme que chez l'artisan et le laboureur. Ils sont plus grands et plus robustes. Et partant, ils constituent la force d'une armée quand il s'agit de livrer bataille. » Autant vaudrait dire, répliquai-je alors, qu'il faut pour la gloire et le succès de vos armes multiplier les voleurs. Car ces fainéants de valets en sont une pépinière inépuisable. Malheureusement, cette plaie sociale n'est pas particulière à l'Angleterre. Elle ronge presque toutes les nations. La France est infectée d'une peste bien plus désastreuse. Le sol y est entièrement recouvert et comme assiégé par des troupes innombrables, enrégimentées et payées par l'État. Et cela en temps de paix, si l'on peut donner le nom de paix à des trêves d'un moment. Ce déplorable système est justifié par la même raison qui vous porte à entretenir des myriades de valets fainéants. Il a semblé à ces politiques peureux et chagrins que la sûreté de l'État exigeait une armée nombreuse, forte, constamment sous les armes et composée de vétérans. La France apprend à ses dépens le danger de nourrir cette espèce d'animaux carnassiers. Revenons à nos valets soldats. Ils ont, dites-vous, plus de courage et d'élévation que les artisans et les laboureurs. Je ne crois pas, moi, qu'un valet fasse grand-peur, ni aux uns ni aux autres. Les valets, ajoutez-vous, sont plus grands et plus robustes. Mais n'est-il pas dommage de voir des hommes forts et beaux, car les nobles choisissent les victimes de leur corruption, de les voir se consumer dans l'inaction, s'amollir dans des occupations de femmes, tandis qu'on pourrait les rendre laborieux et utiles en leur donnant un métier honorable et en les habituant à vivre du travail de leurs mains? De quelque manière que j'envisage la question, cette foule immense de gens oisifs me paraît inutile au pays, même dans l'hypothèse d'une guerre, que vous pourrez au reste éviter toutes les fois que vous le voudrez. La guerre est en outre le fléau de la paix. Et la paix vaut bien qu'on s'occupe d'elle autant que de la guerre.
Sir Thomas est là, votre grâce. Sir Thomas.
Maître Cromwell.
Vous m'avez fait opposition au conseil ce matin, Thomas.
Oui, votre grâce.
Vous étiez le seul opposant.
Oui, votre grâce.
Vous êtes un idiot. Si vous pouviez voir les faits sainement et simplement sans cette horrible déformation morale.
Nous sommes toujours dans la première partie de l'utopie. Dans son dialogue entre le voyageur Raphaël Hitleday et le cardinal, Thomas More revient sur les causes de la misère dans son pays. Après le règne des valets, il dénonce plus sérieusement le mouvement des enclosures, qui, à l'époque, précipite la fin des droits d'usage pour les paysans et qui est considéré comme l'acte de naissance du capitalisme en Angleterre.
Sir Thomas.
Qu'est-ce que c'est?
C'est le remerciement des pauvres gens de Leicester.
De Leicester?
Vous faites plus de bien que vous ne pensez, Sir Thomas.
Ma fille a un procès en train. Elle va être jugée par le tribunal des pauvres. Des pommes au four.
Pour adoucir mon jugement, je rendrai pour votre fille le même jugement que si c'était la mienne. Équitable. Rapide.
Découvrons cet autre récit de science-fiction où le philosophe prédit un nouveau fléau, celui des crises économiques. Mon cher, la noblesse et la valdaille ne sont pas les seules causes des brigandages qui vous désolent. Il en est une autre exclusivement particulière à votre île. Et quelle est-elle? Reprit le cardinal. Les troupeaux innombrables de moutons qui couvrent aujourd'hui toute l'Angleterre. Ces bêtes si douces, si sobres partout ailleurs, sont chez vous tellement voraces et féroces qu'elles mangent même les hommes et dépeuplent les campagnes, les maisons et les villages. En effet, sur tous les points du royaume, où l'on recueille la laine la plus fine et la plus précieuse, accourent pour se disputer le terrain les nobles, les riches et même de très saints abbés. Ces pauvres gens n'ont pas assez de leur rente. Ils ne sont pas contents de vivre au sein de l'oisiveté et des plaisirs, ils enlèvent de vastes terrains à la culture, les convertissent en pâturages, abattent les maisons, les villages et n'y laissent que le temple pour servir d'étable à leurs moutons. Ils changent en désert les lieux les plus habités et les mieux cultivés. Ainsi, un avare affamé enferme des milliers d'arpents dans un même enclos. Les honnêtes cultivateurs sont chassés de leurs maisons, les uns par la fraude, les autres par la violence, les plus heureux par une suite de vexations qui les forcent à vendre leurs propriétés. Les malheureux fuient en pleurant le toit qui les a vus naître, le sol qui les a nourris, et ils ne trouvent pas où se réfugier. Et comment les employer? Ils ne savent que travailler à la terre. Un seul pâtre ou vacher suffit maintenant à faire brouter cette terre dont la culture exigeait autrefois des centaines de bras. Mais ce n'est pas tout. Depuis la multiplication des pâturages, une affreuse épizootie est venue tuer une immense quantité de moutons. Il semble que Dieu voulait punir l'avarice insatiable de vos accapareurs. Mais le prix des laines est monté si haut que les plus pauvres des ouvriers drapiers ne peuvent pas maintenant en acheter. Et voilà encore une foule de gens sans ouvrage. Il est vrai que le nombre de moutons s'accroît rapidement tous les jours, mais le prix n'en a pas baissé pour cela. Parce que si le commerce des laines n'est pas un monopole légal, il est en réalité concentré dans les mains de quelques riches accapareurs que rien ne presse de vendre et qui ne vendent qu'à de gros bénéfices. J'ai bien peur que l'Angleterre n'ait pas ressenti tous les effets de ces déplorables abus. Jusqu'à présent, les engraisseurs de bêtes n'ont causé la cherté que dans des lieux où ils vendent. Mais à force d'enlever le bétail là où ils l'achètent, sans lui donner le temps de multiplier, le nombre diminuera insensiblement et le pays finira par tomber dans une horrible disette. Ainsi, ce qui devait faire la richesse de votre île en fera la misère, par l'avarice d'une poignée de misérables. Arrachez de votre île ces pestes publiques, ces germes de crimes et de misère. Décrétez que vos nobles démolisseurs reconstruiront les métairies et les bourgs qu'ils ont renversés. Mettez un frein à l'avare égoïsme des riches. Ôtez-leur le droit d'accaparement et de monopole. Donnez à l'agriculture un large développement. Créez des manufactures de laine et d'autres branches d'industrie où viennent s'occuper utilement cette foule d'hommes dont la misère a fait jusqu'à présent des voleurs, des vagabonds ou des valets, ce qui est à peu près la même chose. Si vous ne portez pas remède aux maux que je vous signale, ne me vantez pas votre justice. C'est un mensonge féroce et stupide. Pour conclure cette émission sur l'utopie, traversons à nouveau l'Atlantique et revenons sur le continent américain quelques siècles plus tard.
Je suis en train de traduire un texte inoubliable.
Quel texte ?
La Déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique.
Et que dit ce texte ?
Il parle du peuple et de son droit le plus sacré.
Quel est ce droit ?
Le droit au bonheur, sire.
Nous sommes en 1848. Un grand amoureux de la nature refuse de payer ses impôts et se voit condamné à passer une nuit en prison. Il s'agit d'Henry David Thoreau, petit-fils d'un révolutionnaire français et grand poète.
Voici quelques pages éloquentes de son célèbre traité de la désobéissance civile qu'il rédige au cours de sa nuit de captivité. Nous ne sommes plus dans le domaine de la science-fiction, mais l'écrivain rêve encore d'une belle utopie, celle d'un gouvernement de la conscience. De grand cœur, j'accepte la devise « Le gouvernement le meilleur est celui qui gouverne le moins ». Et j'aimerais l'avoir suivie de manière plus rapide et plus systématique. Poussée à fond, elle se ramène à ceci auquel je crois également, que le gouvernement le meilleur est celui qui ne gouverne pas du tout. Et lorsque les hommes y seront préparés, ce sera le genre de gouvernement qu'ils auront. Tout gouvernement n'est au mieux qu'une utilité, mais la plupart des gouvernements, d'habitude, et tous les gouvernements, parfois, ne se montrent guère utiles. Le gouvernement américain, qu'est-ce donc sinon une tradition, toute récente, qui tente de se transmettre intacte à la postérité, mais perd à chaque instant de son intégrité. Il n'a ni la vitalité ni l'énergie d'un seul homme en vie, car un seul homme peut le plier à sa volonté. C'est une sorte de canon en bois que se donnent les gens. Mais il n'en est pas moins nécessaire, car il faut au peuple des machineries bien compliquées, n'importe lesquelles pourvu qu'elles pétaradent, afin de répondre à l'idée qu'il se fait du gouvernement. Les gouvernements nous montrent avec quel succès on peut en imposer aux hommes, et mieux, comme ceux-ci peuvent s'en imposer à eux-mêmes pour leur propre avantage. Cela est parfait, nous devons en convenir. Pourtant, ce gouvernement n'a jamais de lui-même encouragé aucune entreprise, si ce n'est par sa promptitude à s'esquiver. Ce n'est pas lui qui garde au pays sa liberté, ni lui qui met l'Ouest en valeur, ni lui qui l'instruit. C'est le caractère inhérent au peuple américain qui accomplit tout cela. Et il en aurait fait un peu plus si le gouvernement ne lui avait souvent mis des bâtons dans les roues. S'il fallait juger les législateurs en bloc sur les conséquences de leurs actes, ils mériteraient d'être classés et punis au rang des malfaiteurs qui sèment des obstacles sur les voies ferrées. Mais pour parler en homme pratique et en citoyen, au contraire de ceux qui se disent anarchistes, je ne demande point d'emblée point de gouvernement, mais d'emblée un meilleur gouvernement. Après tout, la raison pratique pour laquelle le pouvoir, une fois aux mains du peuple, on permet à une majorité de régner continuellement sur une longue période, ne tient pas tant dans le vrai, ni à l'apparence de justice offerte à la minorité, qu'à la prééminence de sa force physique. Ne peut-il exister de gouvernement où ce ne seraient pas les majorités qui trancheraient du bien ou du mal ? Mais la conscience. Le citoyen doit-il jamais un instant abdiquer sa conscience au législateur ? À quoi bon la conscience individuelle alors ? Je crois que nous devrions être hommes d'abord et sujets ensuite. Il n'est pas souhaitable de cultiver le même respect pour la loi et pour le bien. La seule obligation qui m'incombe est de faire à toute heure ce que je crois être bien. La loi n'a jamais rendu les hommes un brin plus justes. Et par l'effet du respect qu'il lui témoigne, les gens les mieux intentionnés se font chaque jour les commis de l'injustice. J'entends parler d'une convention prévue à Baltimore ou ailleurs pour choisir un candidat à la présidence. Cette convention serait principalement constituée de rédacteurs en chef de journaux et de politiciens de carrière. Mais moi je me dis, qu'importe à un homme indépendant, intelligent et respectable la décision où ils peuvent aboutir ? N'aurons-nous pas quand même le bénéfice de la sagesse et de l'honnêteté de cet homme-là ? Ne pouvons-nous tabler sur des votes indépendants ? Le pays ne compte-t-il pas d'individus qui n'assistent pas aux conventions ? Mais je m'aperçois que des hommes honorables, ou soi-disant tels, ont immédiatement dévié de leur position et désespèrent de leur pays, alors que leur pays aurait bien plutôt à désespérer d'eux. Ils adoptent sans tarder un des candidats ainsi choisis comme le seul disponible, prouvant ainsi leur propre disponibilité au dessein du démagogue. Leur voix n'a pas plus de valeur que celle d'un étranger ou d'un Américain qui s'est vendu. Oh, que ne puis-je trouver un homme ? Un vrai, comme dit l'autre, pas une chiffre qu'on retourne comme un gant. Quelle attitude doit adopter aujourd'hui un homme face au gouvernement américain ? Je répondrai qu'il ne peut sans déchoir s'y associer. Pas un instant je ne saurais reconnaître pour mon gouvernement cette organisation politique qui est aussi le gouvernement de l'esclave. Un sage ne sert qu'en sa qualité d'homme, et ne se laissera pas réduire à être « la glaise qui bouche le trou par où soufflait le vent », comme disait encore Shakespeare. « Je suis de trop haut lieu pour me laisser approprier, pour être un subalterne sous contrôle, le valet et l'instrument commode d'aucun état souverain de par le monde. »
Michel Foucault.
Il y a des pays sans lieu et des histoires sans chronologie.
des cités, des planètes, des continents, des univers dont il serait bien impossible de relever la trace sur aucune carte ni dans aucun ciel, tout simplement parce qu'ils n'appartiennent à aucun espace. Sans doute, ces cités, ces continents, ces planètes sont-ils nés, comme on dit, dans la tête des hommes, ou à vrai dire, dans l'interstice de leurs mots, dans l'épaisseur de leurs récits, ou encore dans le lieu sans lieu de leurs rêves, dans le vide de leur cœur. Bref, c'est la douceur des utopies.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestudia, avec à la technique Delphine Baudet. Elle a été préparée par Estelle Gap, Leila Kourousselikois, Perrine Malinge et Claire Tesser. Bonne soirée et à la semaine prochaine.